Bonjour, on est mardi matin sur Allegre FM 93.1 Dans la vie est un roman. L'émission est enregistrée en avance, vous entendez les voitures, on est sous Covid-19 là. Et donc je suis avec Agnès Calu, historienne d'art, et Vincent Corpet, peintre, qui aura une exposition le 16 septembre à la rue Beaubourg. Et nous allons, Agnès Calu a signé texte dans un très beau catalogue paru chez Courcuf Gradenigo, le dessin au présent, et nous allons parler de cette exposition et du catalogue. Donc la première question est d'ordre pratique, quand et où a lieu l'exposition?
Donc l'exposition ouvre le 16 septembre, elle dure sur un temps très court, donc jusqu'au 19 septembre. On a conçu un petit peu cette exposition comme une capsule très resserré, d'où le suffixe de l'exposition qui s'appelle Corpé Corpus Acte 1, parce qu'il y aura, on espère, des actes 2, 3, 4 ensuite. Mais donc pour cet acte 1, une petite semaine au 24 Beaubourg.
Et vous pensez à un dispositif de réservation pour visiter l'exposition?
On pense effectivement, en tout cas, que les choses seront organisées par petites cohortes, par petits groupes. Les choses sont encore un peu floues concernant le dispositif d'entrée. On va s'adapter au discours politique et tel qu'il sera, on va dire, en fonction à la veille de l'exposition. Mais oui, tout ça sera très, très contrôlé. Et oui, petit groupe, petit lot.
D'accord. Et donc, c'est une exposition de dessin?
C'est une exposition de dessin. C'est la première. C'est en cela qu'elle est tout à fait intéressante, qu'il y aura beaucoup de dessins exposés. Le lieu, un peu labyrinthique, permet précisément une déambulation au milieu de très nombreux dessins, non seulement ceux qui sont présentés donc dans le livre, mais aussi toute une série de dessins beaucoup plus importantes, et on fonctionnera par corpus, d'où le titre Corpé Corpus, c'est-à-dire que c'est une exposition sur le corps chez Corpé, présentée en corpus.
D'accord. Donc il y a différentes périodes, il n'y a pas seulement la...
Non, voilà, parce que là, en fait, la période qui est présentée dans l'ouvrage correspond aux années 2009, 2013-14, donc pour le travail de Vincent, on va dire assez récent. Mais là, le choix que nous avons fait tous les deux, attention à la moto qui passe, le choix que nous avons fait tous les deux est de présenter vraiment le dessin de façon macro, in extenso, donc beaucoup, beaucoup de dessins.
Et est-ce qu'on parle de l'aspect... technique des dessins, c'est une matière particulière avec une approche particulière techniquement parlant.
C'est un peu compliqué cette histoire de dessin, parce que là tu viens de me présenter comme étant un artiste peintre. Moi j'ai jamais revendiqué d'être un peintre, je me suis toujours revendiqué plutôt artiste qui me sert de la peinture ou du dessin. Mais je dirais même pire, c'est que je suis pas certain que je fasse de la peinture. J'ai l'impression que c'est tout ce que je fais depuis 82, c'est en fait du dessin. En plaisantant, je dis c'est colorié. Parfois c'est colorié, mais c'est du dessin. En fait, toute ma peinture est du dessin. Et là, ce qu'on va présenter, c'est effectivement que des œuvres sur papier. Donc, normalement, c'est le support idéal du dessin. Mais il va y avoir en fait pas mal de peintures sur papier, des dessins peints.
D'ailleurs, on parle souvent ici là de tableaux dessinés. Oui. Je pense que c'est un bon mot, peut-être, pour qualifier cette exposition, des tableaux dessinés. C'est ce que fait Vincent.
C'est ce que je crois que je fais aussi à l'huile. Voilà, parce que comme je travaille très peu sur la matière de la peinture, c'est essentiellement du dessin colorié. Je fais du coloriage.
Et qu'est-ce que c'est le glassochrome?
Le glassochrome, c'est un crayon. C'est un crayon, c'est un crayon un peu plastique, dont je me sers depuis 89. En fait, les SAD, quand j'avais dessiné les SAD, je les avais fait au glassochrome. Et c'est un crayon magique, parce qu'on peut, le diluer à l'essence, on peut le gratter au cutter, il rentre pas dans la fibre du papier, il reste toujours en dessus, comme une couche, c'est-à-dire qu'il peut s'enlever.
Et donc tu joues avec de la térébenthine dessus.
Je joue avec de la térébenthine ou avec du cutter. Voilà. Alors glassochrome, ça fait...
Ça fait bien.
Ça fait bien. Ça fait allemand.
Non, mais c'est... Il y a une certaine... une certaine approche, effectivement. Et effectivement, donc, il n'y a pas de dépôt de matière dans tes peintures. C'est intéressant.
Et le glassochrome a une particularité aussi, c'est que le noir du glassochrome, c'est le noir le plus absolu qui soit. Donc, on va du noir, et si on lui donne un coup de cutter On arrive au blanc tout de suite et on peut passer par toutes les strates. Mmh. Avec en plus le glaçochrome étant, il y a quatre couleurs au glaçochrome. En fait, c'était les crayons qui servaient jadis à retoucher ou à noter sur les pellicules de photos. Parce que ça marche sur le verre, ça marche sur le plastique, ça marche sur tout.
Et donc, puisqu'on en est là à parler de ce que tu fais, est-ce qu'on peut aussi dire, c'est l'impression que j'avais en regardant le catalogue et le film que l'a fait Olivier Taïeb sur ses dessins, que tu as un côté assez oulipo, comme ça, que tu te mets des contraintes de type transformer toutes les scènes religieuses en scènes de genre, prendre deux choses qui semblent pas avoir de rapport entre eux et projeter l'une sur l'autre et obtenir un nouveau résultat. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, on peut dire aussi, c'est que depuis toujours, je suis un artiste qui n'a rien à dire. C'est-à-dire que j'ai pas à m'exprimer, dans le sens, j'ai pas quelque chose d'intérieur à moi qu'il faut absolument que je fasse partager au monde entier pour leur expliquer à quel point ils ont tort. Donc c'est pour ça qu'à une époque j'avais défini mon travail comme étant un travail sur l'analogie, c'est-à-dire que telle chose me fait penser à telle autre, et ce que j'aurais à dire, c'est quand je pense à quelque chose, je pense à autre chose. Quand je suis en face d'une réalité, je pense à autre chose que la réalité. Et je me suis aperçu justement en préparant cette exposition que des dessins de 83, en fait, je faisais des feuilles avec des igouigouis sur ces feuilles que je tournais au sol, comme ça c'était que des dessins abstraits, complètement abstraits, all over, sur une feuille, et que de là je sortais une femme qui donnait la tétée à son fils, un mari qui tapait sur sa femme, des voisins qui s'entretuaient, et après des descentes de croix, des natures mortes, qu'en fait finalement je travaille depuis le début sur le presque rien qui me fait penser à quelque chose.
Alors Léonard de Vinci raconte ça, il dit si tu regardes un mur pendant un moment ne pensant à rien, tu vas voir des formes, après tu vas voir une chevelure, après tu vas voir une rivière, après tu vas voir des oiseaux dans le ciel. C'est ce genre d'association libre.
C'est ce genre d'association libre. Ce qui me permet, moi, c'est de sortir de moi-même, justement, toujours, parce que en repartant sur le principe du « je n'ai rien à dire », et qui me permet, de comme un acteur, en fait, de changer de rôle. Donc tout à coup de faire des tableaux soit abstraits, alors que je connais rien à l'abstrait, soit réalistes, soit descriptifs, soit de ressentiments mais que je n'ai pas. Ça me permet de couvrir un champ qui, moi, m'étonne d'abord. Parce que c'est d'abord moi m'étonne et moi me désennuie, en fait.
On peut dire aussi que tu as revisité l'histoire de la peinture.
Alors ça, c'est autre chose, c'est que ça, c'est un autre problème, c'est que j'ai toujours un peu comparé les artistes à des sportifs de haut niveau, en fait. D'ailleurs, ça se voit sur une chose, c'est que si on arrête de pratiquer pendant 3 semaines, il faut à peu près 3 semaines pour revenir au même niveau que celui que l'on avait abandonné. Donc il y a bien un phénomène d'entraînement et de sportif. Et un sportif de haut niveau, il se confronte à d'autres sportifs de haut niveau. Et malheureusement, la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, il n'y a pas de confrontation. On n'arrive plus à trouver un ennemi. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus personne. On est tout seul à se promener, à errer. Et donc, je m'étais dit, je vais aller chercher les morts. Donc, toute l'histoire de l'art pour me payer des morts. Parce qu'au moins, eux, on sait qu'ils ont fait quelque chose, on sait où ils sont, on a le résultat de ce qu'ils ont fait. Et là, on peut quand même s'attaquer. Alors, évidemment, le combat est gagné à tous les coups.
Et donc Agnès, alors dans votre texte, j'ai repéré 3 points, la chair, l'amour, le combat,
oui,
comme 3 grandes articulations, ça marcherait?
Oui, il me semble que c'est vraiment la tierce qu'on retrouve constamment dans le travail de Vincent, avec la chair au centre et puis tournant de façon un peu stellaire la question de la mort et de l'amour. Moi j'ai trouvé ça à la fois très profond et en même temps regarder toujours de façon un peu sardonique et riant. C'est la mort en riant, l'amour en riant, des dialogues un petit peu aussi toujours sur le mode de la farce, caché derrière des masques. Il y a beaucoup de comédiens de l'Arte dans tout cela, je vois. En fait, dans tous ces dialogues que l'on voit entre des hommes et des femmes qui dialoguent au milieu de bestiaires un peu étranges et monstrueux, il y a des dialogues amusant d'une pièce de théâtre avec je vois et j'entends le rire de Vincent derrière. Et donc, en fait, il se sert de la chair comme l'univers formel premier. Et il l'étend, comme il vient de le dire, me semble-t-il, essentiellement de ces deux côtés, du côté du combat et de la lutte, et du côté de l'amour, qui est aussi un combat et une lutte. Mais en s'en amusant, il y a aussi, je pense, sinon une pause, en tout cas un discours, comme Vincent vient de le dire, je n'ai pas de style, je n'ai pas de sujet, je n'ai pas d'idée, j'attrape tout. En fait, si, bien sûr, il y a le style, et il y a l'idée, et il n'attrape pas tout, il attrape une sorte de rien qu'il transfigure, me semble-t-il, dans ses dialogues qu'il nous propose, qui sont très, très amusants. Il y a cette question du motif, en fait, dans le travail de Corpet, qui, moi, m'a fait venir à lui, c'est-à-dire que le motif n'est pas un ornement, une ornementation. Le motif, c'est le motif d'une certaine trivialité qu'il rend belle en l'haïssant, en fait, au niveau de l'histoire de l'art. Et donc, on se trouve très, très étonné de voir soudain des organes sexuels qui nous regardent et qui dialoguent avec une bête, un bout de visage, le tout dans un côté très, très archaïque, très ancestral, très pariétal, très, très fresquiste, très préhistorique. Et moi, ça m'amuse. Ça me fait chavirer, ça m'amuse.
Bien parce qu'on travaille en milieu hostile, c'est assez drôle. C'est un petit peu comme la peinture, oui, mais justement là je vois Corpet faisant de la corde à danser, et puis avec des gants de boxe, quoi, mi-lourd, tapons sur un petit bout, ça pourrait marcher. Tu as fait toutes les positions de Sodome et Gomorre,
de Sade.
Et donc il y a aussi toujours cette sérialité. Il y a une sérialité, il y a une période, tu commences à mettre au point un de ces protocoles justement dont je parlais, et après tu épices ce protocole et ensuite tu passes à un autre protocole.
Alors je sais qu'à une
époque... Bon, ce rien se nourrit quand même
Mais au niveau
de rites, c'est très rituel tout ça.
Mais à l'époque des SAD, donc au début des années 90, en fait, j'avais développé le fait que j'étais un artiste pornographe. Et alors, bon, j'avais cherché 3 minutes, qu'est-ce que ça voulait dire, pornographe. Alors, dans mon pornographe, dans la définition du dictionnaire, c'est un rapport avec le fait de vendre du sexe. Bon, mais c'est pas ça, ça m'intéressait pas trop. Mais quand j'étais petit, on disait la pornographie, c'est la sexualité des autres. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était l'opposé. C'est-à-dire que la pornographie, c'est notre sexualité. C'est-à-dire que notre sexualité, on la connaît parfaitement bien et on lui met des contraintes parce qu'on s'ennuie. Et ça marche tellement bien qu'on s'ennuie tout le temps. Et donc, on la nourrit. On la nourrit avec des protocoles pour qu'on aille quelque part ailleurs. Et par contre, la sexualité des autres, c'est un fantasme. On se demande comment ils font, les autres. D'ailleurs, c'est la grande question. Moi, c'est aussi la grande question de tout mon travail, c'est comment ils font les autres, à quoi ils pensent les autres, pourquoi ils ont peur les autres aujourd'hui, pourquoi ils sont contents les autres aujourd'hui, alors que moi j'ai pas peur, je suis pas content, mais je me mets des contraintes pour essayer d'être humain, enfin, avoir un ressenti quelque part. Donc il y a effectivement, Agnès a bien raison de dire qu'il y a d'abord du rire en dessous, sous-jacent, parce que je suis ridicule, parce qu'on est... dans notre propre sexualité, on est parfaitement ridicule. Si on se regarde d'un tout petit peu au-dessus, c'est à pisser de rire. C'est pas du tout tentant comme expérience. Mais moi, mes dessins et tout mon travail est basé là-dessus. C'est-à-dire que je sais faire, j'ai pas de doute, j'ai pas de problème pour changer de rôle et puis y arriver. Puisque j'ai rien à défendre.
Oui, c'est vrai qu'on avait réfléchi à cette sorte de séparation, en fait, assez contractuel entre pornographie et érotisme. Et l'érotisme, ça avait ce côté chabrolien, ennuyeux, pas rigolo du tout, qu'on regarde derrière un rideau en se cachant. Et ce qu'il y a de joyeux, de riant, de bondissant, de sautillant dans le travail de Vincent, c'est que c'est une pornographie qu'on regarde en face, qu'elle ne met pas du tout mal à l'aise, puisqu'elle est comme vitrifiée par la térébenthine, cachée derrière le dessin, qu'elle fait ressurgir, on va dire, dans notre cosa mentale et tous les chefs-d'œuvre des plus grands, et qu'on voit les plus grands sous la main de Vincent. Ça, ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup étonnée. J'aurais presque tendance à dire que c'est même elle qui m'a fait venir vers Vincent Corpet, vers son travail. C'est « ce ne sont pas les maîtres qui m'apprennent à dessiner, mais moi, dessinant, je vois le travail des maîtres », ce qui est une sorte de phrase à la fois mégalomaniaque, drôle et géniale au sens premier de génie. C'est-à-dire que sous sa main, on voit les chefs-d'œuvre dont il se moque, virgule. Donc c'est-à-dire que le chef-d'œuvre, il y a ce côté hiérarchique dans le travail de Vincent. Le chef-d'œuvre, il va avec un bec de canard, un morceau de bête, une peluche, un bout de quelque chose, et tout cela s'agence dans une sorte d'immense mosaïque comme ça, fragmentée. Et après, au dernier moment, c'est comme si d'une fiche nette, il riait tout cela. Donc il y a une irrévérence par rapport au chef-d'œuvre. Qui est très amusante et qui effectivement est très loin, me semble-t-il, d'un érotisme voyeur, mais est regardé en face, directement.
Oui, on a à côté le musée imaginaire de Malraux,
voilà,
c'est où les échelles se valent.
Voilà.
Hein, quelque chose qui peut avoir été dessiné très petit et quelque chose qui soit une immense fresque est au même niveau. On a un côté de tout s'accaparer par la pratique,
oui.
De tout ramener à soi en le pratiquant et apprenant à voir en le reproduisant, en l'utilisant, en l'instrumentalisant, en le dansant, en le rythmant, je ne sais pas quoi. Par exemple, on peut. Ce qui me frappe beaucoup, parce que pas tout à fait pour d'autres raisons, Vincent a publié l'entièreté de ses peintures sur Facebook, donc je les ai vues passer. Et je ne vois pour moi, l'aspect sexuel n'est pas premier. L'aspect premier, c'est la construction en fait des peintures, c'est le rythme qu'elles ont. Donc, j'entends la musique plutôt que le contenu.
Et la danse.
Voilà, exactement. On pourrait penser, lui qui fait tout en référence à Picasso, on pourrait penser à la danse de Matisse.
Oui.
Et effectivement, plutôt que de voir l'aspect sexué du Picasso finissant, je vois la danse de Matisse.
Moi aussi, je vois de la danse. Je vois de la
danse. Tout à fait une autre vision et le sexe me paraît anecdotique.
Très
enfin, comme totalement accessoire, comme le reste.
Comme le reste.
Exactement.
Et c'est
comme
en cela que c'est. Voilà.
Ce qui prime, moi, ce que je crois, c'est la concentration quand on travaille. Et l'analogie, moi, me permet une concentration totale. C'est-à-dire que, puisque à chaque fois, ça me rappelle quelque chose d'autre, et que un moment, ça pourrait me rappeler quelque chose d'autre toute ma vie. Enfin, un dessin pourrait ne jamais se finir, puisqu'il aurait toujours quelque chose qui réapparaîtrait derrière. Donc il s'arrête à un moment donné, bon, parce qu'il y en a, parce que j'ai faim, parce que j'ai envie d'aller boire un whisky, que j'ai envie d'aller dormir. Mais c'est le jeu de la concentration. Et d'ailleurs, à ce titre-là, pour reprendre sur Picasso, c'est pour ça que je pense que Picasso est le plus grand dessinateur de tous les temps. Et pas Raphaël, et pas qui fait des jolies petites vierges, mais qu'il a dû s'ennuyer quand il fait le drapé, il a dû s'ennuyer quand il fait un petit doigt levé, parce que il le fait mieux que d'autres, mais ça n'a aucun intérêt en soi. Et Picasso, la preuve du fait qu'il est le meilleur, c'est sur la série de dessins et de gravures Le peintre et le modèle, La belle noiseuse, où il y a d'un côté le peintre, il y a d'autre côté la belle noiseuse. Alors là, on voit le fait qu'il soit doué, tout bêtement doué. Mais c'est pas ça qui est intéressant pour moi dans ces dessins, c'est que les dessins sont partagés par la tranche d'un châssis. C'est-à-dire que des châssis à l'époque, c'est-à-dire des clous plantés dans de la toile. Et donc il y a 8 ou 9 clous. Et si on regarde ces dessins, au moment où il arrive au clou, dans son dessin, il arrive à un clou, il n'arrive jamais au même clou, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les clous, il arrive au clou. Et là, il va faire un clou, et tous les clous sont tout le temps différents. Et là, il y a la concentration sur les clous. Et là, Raphaël est battu par les clous de Picasso. Michel-Ange est battu par le petit rond à la con, parce qu'en fait, on voit bien qu'à ce moment-là, il ne s'est pas dit « Oh, je fais la tranche du truc ». Non, il arrive à la tranche du truc. Et ça lui permet de passer à la belle noiseuse ou de passer à Fenhofer. Enfin, oui. D'un côté ou de l'autre, il passe, mais les clous sont la limite, et c'est là qu'il s'exprime pas, qu'il montre sa concentration.
Il y a c'est écrit dans le catalogue, je crois. C'est une image usée qui est très cliché, mais c'est la tension du tireur à l'arc zen. Donc on a effectivement, ce que j'ai retenu, c'est que tu travailles 20 minutes.
Oui.
Tu passes la journée dans l'atelier et tu travailles 20 minutes. Donc on pourrait vendre ce geste. Et là, c'est vraiment la musique, puisqu'effectivement, On s'en fout que la on s'en fout de la flèche, on s'en fout de la cible, on s'en fout de l'arc, on s'en fout du zen. On s'en fout de tout. Ce qu'on aime, c'est la caresse du vent, c'est une feuille qui tombe en automne d'un arbre, c'est cette spirale qu'elle fait, qui est absolument invraisemblable. C'est des vieilles dames chinoises qui font du tai chi dans un parc, et qui sont tellement belles, et qui sont tellement différentes de nos vieilles, parce
c'est là où
qu'elles
moi
ont
je
fait
fais
ça toute leur vie.
Moi, c'est là où je fais plutôt un rapport avec le sport de haut niveau,
c'est ça,
Usain Bolt. C'est-à-dire que
mais tu veux absolument
à un moment
être...
donné, il va y avoir 8 secondes 80, et puis c'est tout.
Hein? Oui, moi
et
je...
pour arriver à ces 8 secondes 80, il faut qu'il court toute la journée. Enfin, il faut qu'il mange. Mais à un moment donné, c'est juste 8 secondes 80. Et puis, il les fait ou il ne les fait pas.
Je crois tout à fait à ta sincérité sur ce modèle de sport, et aussi de virilité, de violence rentrée, de tout ce que tu veux. Mais est-ce que ça se marque dans le résultat, si tu veux? Est-ce que regarder une peinture, c'est comme commenter un match de rugby?
Alors moi, je ne regarde pas mes peintures, parce que je les fais, comme mes dessins d'ailleurs, je les fais par terre au sol. Je ne les fais même pas sur une table, mes dessins. Je les fais par terre au sol. Donc normalement, je ne les vois pas, je ne les regarde pas. Donc ce qui m'importe, ce n'est pas le résultat, c'est... Alors, tu parles de musique, moi, j'écoute pas de musique et je suis nul en musique, je suis plutôt sourd. Ce que je sais, c'est que quand la concentration est bonne, il y a un bruit. J'ai un bruit dans la tête et le bruit, c'est toujours le même quand ça se passe bien. C'est un... Et ça dure très peu de temps.
On peut dire ça danse. Mais c'est gênant parce que tout ça, parce que justement, comme tu as un refus très radical de toute poétisation, que le mièvre te menace, il va se jeter sur toi, il va te transformer en un champignon rose sautillant et que ça te dégoûte. Mais c'est quelque chose, c'est pour essayer de donner envie et de faire visualiser ces dessins aux gens qui nous écoutent. On peut dire que c'est du geste.
C'est du geste rapide.
Mais ce qu'on voit, c'est figuratif, mais c'est du geste.
C'est du geste rapide et qui n'est pas repris. C'est-à-dire que je pense que Vincent Corpen n'est pas un homme que je qualifierais de spontané, mais un homme qui aime prendre des risques. Et donc, en fait, il fait son dessin et c'est comme s'il sautait de la falaise. Le dessin, il est fait, 20 minutes, terminé. Il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de reprise. Il y a justement cette espèce d'éloignement et de mise à distance qui fait que le travail, il est là, il est livré, et hop, d'un geste, d'une pichenette, il passe à autre chose. Ça aussi, ça fait partie à la fois de cette joie et de l'idée de ne pas se prendre au sérieux. C'est très important, cette idée de non-prise au sérieux dans un travail fait extraordinairement sérieusement. Mais il peut être précisément fait extraordinairement sérieusement parce que comme ça ne mobilise qu'un temps très court, le temps très court est celui du haut sportif qui fait précisément le geste magnifique et magique sur un temps très court et après il saute ailleurs, il voit ailleurs, il pense à autre chose. Et pendant le temps très court, il y a cette question de l'assemblage magique. Les pièces qui s'assemblent, non hiérarchisées, piochant à chaque fois dans des corpus et dans des imaginaires extraordinairement différents et qui s'assemblent comme ça, comme un puzzle, comme une mosaïque un peu cassée. Et entre guillemets, j'ai le sentiment que Vincent dit, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est terminé, les coins sont remplis, j'ai été mettre cette forme plastique un peu pour terminer, cette forme carrée pour occuper ce coin gauche ou ce coin droit. Ça y est, je livre et je m'en vais. C'est beau, c'est courageux, c'est tout le temps de l'ordre du pari, qui n'en est pas un pour lui, mais que moi je lis comme étant un pari.
Dans votre texte, vous parlez des masques aussi. Je pense qu'il y a une forte tension entre la pudeur et l'impudeur.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est masqué. Oui, moi j'ai vraiment trouvé que c'était comme des façons de cartes à jouer, comme ça, des cartes de tarot et des personnages qui avancent, de profils bien sûr très, très picassiens, cachés ou pas cachés derrière des masques. Là se jouent devant nous des scènes qui sont théoriquement empruntées à tout ce qu'on appellerait le registre des images offensantes. Et voilà les images offensantes qui ne deviennent plus offensantes du tout puisqu'elles deviennent drôles, que les personnages eux-mêmes sont éventuellement les jambes en l'air, les jambes écartées, proches les uns des autres, dans des rapprochements qui auraient à voir avec la pornographie, mais qui n'apparaissent plus, qui sont transfigurés, plus que métamorphosés, transfigurés par le geste de Vincent et qui nous font rire. Je répète, il y a du Molière là-dessous, il y a de l'Italie là-dessous, il y a de la drôlerie.
Et il y a un flux aussi, vous parlez de tarot, donc si on prend le pendu par exemple,
oui.
Il a l'air sinistre, mais en même temps c'est une ouverture, c'est lâcher prise, c'est oui. On continue, c'est ça hein?
Oui, moi c'est ça que je vois.
Donc ce qui reste, c'est cette espèce de dynamique, effectivement, de geste qui ne veut pas s'achever, qui se montre en mouvement. L'idée, c'est de montrer le mouvement.
Je pense que c'est pour ça, Vincent, que tu te reconnais bien dans le dessin, parce que le dessin, c'est a priori quelque chose qui est toujours dans l'inachèvement, dans l'inabouti. Et là, toi, toujours pareil, tu dévisses le code du dessin. Et précisément, le dessin est livré comme un produit fini. Et c'est ça qui est drôle.
Il a fait une série de paysages qui sont... très à la limite de la peinture abstraite qui reprennent par exemple les codes de l'école de Paris donc qui était juste avant sa naissance là, qui était dominante et qui était arrivée à une très grande virtuosité mais à la limite de la décoration enfin de rythme hein, enfin, il y avait tout était là comme l'op art aussi des choses comme
mais
ça
ils font bon alors là il y a vraiment un phénomène bêtement de génération, c'est-à-dire que je suis vraiment la génération, pour ce qui est de la France, avec un certain nombre de gens qui vont de l'âgé, des grands champs, tout un tas de gens comme ça, où on a pris notre liberté. C'est-à-dire qu'on a été formé au conceptuel et au support surface, c'est ça notre formation, parce qu'elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour les jeunes peintres. Nous, on est formés là-dessus. Et je ne sais pas ce qui nous est pris de la tête. C'est de dire, mais on va reprendre tout, on va reprendre les natures mortes, on va reprendre les nus, on va reprendre les scènes de genre, on va reprendre la peinture religieuse, mais d'une manière... Alors pour ma part, j'ai toujours cru que c'était moderne, enfin il n'y a que moi qui le crois, hein, pas ceux qui regardent, mais avec une liberté, on a eu une liberté incroyable à la fin de ces années 70, début des années 80, ça a duré très peu de temps, hein. Ça s'est refermé juste après... Mais là, il y a eu c'est bêtement une histoire de génération. On n'y peut rien. Enfin...
Oui, mais tu passes ton temps justement à être, me semble-t-il, agénérationnel et tu t'amuses précisément des mélanges de générations. Donc ça, j'allais dire, c'est malgré toi que ta génération te traverse, mais tu t'en moques là encore comme de tout.
Oui.
Non, mais c'est vrai, alors c'est exemplaire dans le sens où... ça va devenir très difficile à expliquer aux gens dans pas longtemps ce que c'était Super Surface. Enfin, ça a perdu tout aura. L'école de Paris, j'en parle même pas. Il y a juste notre ami Soulage qui a réussi un coup de com' absolument magnifique. Mais c'est très difficile de parler de Manessier, Bizière,
oui.
Trouver quelqu'un qui sait qui est Poliakov, Fosse-le-Veto, Atlan, c'était magnifique Atlan. Et tu as fait des choses qui ressemblent beaucoup à Atlan, par exemple. C'est un Algérien qui peignait une peinture très construite, comme ça, post-picassienne, colorée. Tu as des périodes où Magnelli, par exemple, et Adami avaient mis ses chaussures dans les chaussures, ses pieds dans les chaussures de Magnelli, et avaient transformé en figuratif. C'est un peintre abstrait. Bon, il y a toute l'histoire de la peinture dans ce que tu fais. Et puis, il y a l'idée même de la peinture. Qui était totalement interdite après, t'es de la génération de Virouza, des gens comme ça.
Oui.
De...
Mais c'est là-dessus que je repars sur comment ils font les autres. C'est là-dessus aussi où on peut parler justement de ma série Fuckmètre, où je reprenais tout de Lascaux, enfin de Chauvet jusqu'à Ming, enfin jusqu'à Ming Jun et les jeunes chinois, bon, comme j'ai arrêté la série il y a une dizaine d'années, donc jusqu'à il y a 10 ans. Quoi. Et en fait, on m'avait demandé, justement, il y avait tous les gens qui disaient, mais quelle arrogance. Je dis non, c'est pas de l'arrogance, c'est bien pire que ça. C'est que c'est moi. C'est-à-dire que Michel-Ange, c'est moi, Raphaël, c'est moi, Picasso, c'est moi. Mais j'avais oublié. Et donc je m'y rattaque et je fais ah ouais, je faisais ça. C'est, donc il y a le fait d'être tous les artistes. C'est bien pour ça que je me définis pas comme un peintre, c'est d'être tous les artistes. Alors les artistes. Du graphe qui ont représenté des choses. Mais d'être Atlan, d'être aussi ça. Parce que tout à coup, ben, ce que j'ai devant moi, ça, c'est ça que ça me rappelle. Et ça me rappelle un souvenir d'enfance de moi, jeune Atlan.
Il y a Basile, par exemple, qui est mentionné dans le catalogue. et j'ai dû réfléchir pour savoir qui c'était. Ah. Bon, c'est un petit peu chacun en fonction de son,
bah en plus,
son propre opinion littéraire. Bon, évidemment, j'ai retrouvé, mais dans un premier temps, je me suis dit qui est Basile.
C'est pour ça que je pense que l'attaque qui a été celle du catalogue, qui était l'attaque biographique, pour expliquer ça, c'est une chose que je défends en tout cas dans la critique aujourd'hui. Ça me paraît très difficile de rentrer dans le qualitatif d'une œuvre sans véritablement tenter ce pari biographique. Je l'ai fait rapidement dans ce travail, mais j'ai souhaité le faire parce que précisément, on comprend que c'est le panthéon artistique et le panthéon littéraire de Vincent Corpet qui montre qu'il est celui qu'il vient de décrire à l'instant, tous les artistes, multiplex, protéiforme, et ensuite, consciemment ou inconsciemment, c'est sa main qui va chercher, qui va piocher dans le grand réservoir personnel des images apprises ou rencontrées et qui sont retransformées, et qu'à travers, je le répète, ses propres images, il voit les autres, mais puisqu'il est tous les autres. Donc voilà, ça c'est assez extraordinaire, et en même temps, sans qu'il y ait une invitation de sa part à nous laisser deviner quoi que ce soit, c'est-à-dire que ces tableaux ne sont pas un jeu qui nous est proposé, même si sur la question du jeu, je crois que ce serait bien qu'on en parle. C'est pas un jeu pour dire, regardez, ça je l'ai pris chez Delacroix, ça je l'ai pris chez Basile, ça je l'ai pris chez Géricault. Il n'y a jamais cette injonction à un jeu, qui serait d'ailleurs un jeu assez stupide. En revanche, tout est ludique, et malgré nous, dans l'univers des formes de Corpet, on recherche tous les autres univers des formes qui sont attrapés par morceaux et par segments. J'y insiste, c'est vraiment cette question de suite mathématique qui serait comme complètement cassée. Et en même temps, c'est une suite mathématique de motifs des autres qui deviennent les motifs de Corpet.
Mais le texte d'Agnès, quand elle me l'a envoyé, elle ne m'a pas envoyé le texte, elle m'a envoyé le catalogue, parce que je lui avais expliqué que je ne voulais pas lire le texte avant, que c'était pas mon problème, le texte. Le texte, c'est celui qui signe, c'est celui qui dit qui est, quoi. Bon. Et je lui avais dit à ce moment-là, c'est une lettre d'amour, et effectivement, en le relisant, c'est pas une lettre d'amour à moi, ce qu'elle fait, mais c'est une lettre d'amour à tous les dessinateurs. En fait, elle se sert de moi, ou je lui permets de se servir de moi pour attaquer tous les types dans tous les coins, et elle écrit son amour pour les gens qui dessinent, ou qui font, on va dire ça comme ça. Il est très étonnant ce texte, à ce titre-là, c'est un vrai texte d'amour.
Mais c'était difficile pour vous parce qu'il était hostile en fait à cette.
Non,
parce que. Normalement, quand on fait un catalogue, on fait de la géographie.
Du tout.
On va montrer qu'il est le meilleur, qu'il est le plus grand, que c'est à ne pas manquer. Et là, si j'ai bien compris en lisant vos textes, il était hostile à toutes vos avancées. Il disait non, pas ceci, cela, je déteste les catalogues, je déteste les gens qui écrivent sur la peinture, sur le dessin, c'est pas ceci. Non, c'est pas cela.
Les choses ne se sont pas passées comme ça, et premièrement, là, sans faire. La pseudo-savante, c'est pas un catalogue, c'est vraiment un texte critique et ensuite associé à des ce terme de visuel est laid, mais associé à des images du travail de Vincent. D'autre part, notre rencontre, effectivement, elle est assez improbable, mais en même temps, il faut dire aussi la simplicité de Vincent Corpet. Voilà, je vous dis, j'aimerais bien venir vous interroger. Bah, bien sûr, venez demain après-midi, clac, j'y vais, et là, oui, il y a une sorte de coup de foudre esthétique. Qui se passe, et en même temps le coup de foudre esthétique qui se passe dans l'atelier, il se passe aussi parce que je connais le travail de Corpet depuis longtemps, que mes parents et mon père singulièrement est aussi un collectionneur de Corpet, que le travail de Corpet il me hante depuis longtemps, et que si je vais jusqu'au bout des choses, je peux dire que j'étais persuadée qu'il ne me recevrait pas, et que j'arrive, je me dis il me répond, j'y vais demain. Oui, j'y suis allée un peu comme une jeune fiancée, le cœur battant, quoi, comme Lucille dans la chamade qui monte les escaliers en courant. Et voilà, donc lettre d'amour, très, très certainement. Il y a une immense admiration pour moi. Cette admiration, en même temps, d'un point de vue littéraire, elle ne se traduit pas du tout par quelque chose qui a à voir avec la géographie. Elle consiste à raconter dans les cendres de Sainte-Beuve comment, Corpet tel qu'en lui-même, dessine. Corpet tel qu'en lui-même dessine, ça veut dire, il l'a rappelé à l'instant, un homme de chaque génération mais qui n'y est pas tout à fait, un homme qui est un unique homme et rien que lui, un homme qui décide aussi un peu d'emmerder le monde et de faire que ce qui lui plaît, un homme extraordinairement compliqué qui passe son temps à vous expliquer, peut-être en trois quarts d'heure d'entretien, que la culture c'est pas très intéressant, qu'il lit pas, que tous les gens qui viennent regarder ses tableaux n'y comprennent rien et viennent soi-disant de temps en temps lui faire un peu la leçon en lui expliquant « cher ami, voilà ce que je vois dans votre peinture ». Et que lui est persuadé, et certainement qu'il a raison, que personne sinon lui ne comprend mieux que ce qu'il fait. Et en même temps, voilà, il est dans le lâcher-prise dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, vous avez envie de faire un texte, mais allez-y, je vous en prie, entre guillemets, ça ne me regarde pas. Et donc, c'est drôle, en fait, le compagnonnage qui s'instaure entre nous, c'est-à-dire, Agnès, fais ton texte. Ça ne me regarde pas, faisons une exposition ensemble, je sais que tu aimes ce que je fais ce que j'aime, tu fais ce que tu aimes et on avance dans ce compagnonnage intellectuel et esthétique en toute liberté. Il y a beaucoup de liberté dans notre relation et je pense que c'est pour ça qu'elle est belle, parce qu'elle est vraie, très sincère, je crois.
Mais le catalogue, alors, aucun titre, j'ai regardé la moindre chose du catalogue, pas non. Une seconde. J'ai pas eu à faire un bon à tirer ou rien. C'est le catalogue d'Agnès. Un catalogue, je ne sais pas comment,
oui, enfin,
le livre,
enfin, oui,
bon. Un texte illustré.
Voilà.
Un texte illustré.
Et donc, alors, on pourrait dire que tu privilégies, que tu as une certaine crainte d'être enfermé dans des catégories, une certaine crainte d'être enfermé dans une partie de discours.
Il a peur de rien.
Oui, mais il y a de la prévention et que tu privilégies le geste, en fait, le mouvement. Le devenir, l'éternel...
Non, c'est pas ça. Je crois pas que ce soit ça qui se passe, parce que quand je fais une exposition, la plupart des expositions, je les monte tout seul, en fait. Et elles sont toujours pédagogiques. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, j'explique assez ce que je suis en train de faire, mais personne ne le voit. Et ça n'a pas d'importance.
Donc tu aimes l'histoire de la peinture et tu la pratiques.
Ben moi,
et
j'aime.
Et tu es prête à la partager, comme par... J'aimais bien le film où tu es à la maison de la Croix. Que tu peins devant de la croix, que tu reproduis de la croix, et que tu laisses les gens marcher sur la peinture. Enfin, tout y est une désacralisation totale,
oui.
À la fois du corpus et de la pratique.
Mais c'est que les artistes
sont
juste
des... Tu es le grand désacralisateur.
Mais non, c'est que les artistes sont juste des humains comme n'importe lesquels autres, sauf qu'ils ils sont un peu autistes, et que donc ils passent beaucoup de temps sur un truc qui n'a aucune espèce d'importance, mais dans lequel... ils arrivent à avoir le temps se développe. C'est pour ça que j'ai toujours préféré les catalogues raisonnés à n'importe quel catalogue. Moi, ce qui m'intéresse chez un artiste, c'est il passe par où, il fait quoi, comment, et quand il rencontre tel problème, comment il le résout, comment il l'oublie, comment il le fuit. Parce que les artistes sont finalement la seule trace d'humain qu'on ait. Les autres humains qu'on a, c'est soit des grands saints, soit des grands tueurs. Ça dure pas longtemps, on se dit, oui, mais il était pas gentil celui-là, ou alors il était trop gentil, mais enfin il était très con. Les artistes, c'est les seuls où on voit. Moi je définis l'humain comme étant lâche, opportuniste et grégaire. Bon, l'artiste, c'est typiquement l'individu lâche, opportuniste et grégaire. S'il y a une guerre, il fuit. S'il peut se faire de l'argent vite fait, il le fait. C'est un sale. C'est un humain, bête, simple.
Oui, il n'a pas d'opinion, il peut pas. Parce que ça sclérose,
voilà.
Ça durcit, ça empêche de. Donc il y a aussi une préservation de l'enfance. C'est le jeu, le sérieux dans le jeu. Si je reprends les vidéos de Taïeb qu'on peut voir sur YouTube, ce que je vois, c'est quelqu'un qui joue avec tout le sérieux que mettent les enfants à faire un tas de cailloux, et ils sont prêts à se battre à la vie, à la mort, à contraindre leurs camarades pour une histoire de cailloux. C'est très très important. La chose est dans la chose. Elle est en soi.
Mais c'est parce que c'est comme les enfants. Ben, ça, je crois. Alors ça, pour le coup, je crois que la peinture et le dessin, donc, fait partie de notre période d'enfance absolue, c'est-à-dire avant 6 ans, avant qu'on écrive. Ça, je crois vraiment qu'il y a une cassure dans l'histoire de chaque humain. C'est ce moment où il rentre dans l'histoire, le moment où il quitte le préhistorique d'avant 6 ans, et qu'avant 6 ans, tout est très sérieux. Mais tout est très sérieux, très concentré. Il n'y a qu'à voir comment dessine un enfant. C'est quand même un truc. Il décide. Je trouve qu'un enfant dessine comme quand on voit les guenons qui appuient sur des ordinateurs pour avoir une cacahuète. C'est-à-dire avec. Elle ne regarde même pas le clavier de l'ordinateur. On a un peu. Et puis elle tape toujours juste au bon endroit et il y a la cacahuète qui tombe. Hein. Bon, les enfants dessinent de cette façon-là, comme ça. Et je crois que la peinture, elle est de ce temps-là.
Oui.
Elle est de ce temps-là. Et dès qu'elle sort de ce temps-là, elle rentre dans l'image. Et à ce moment-là, quand elle rentre dans l'image, bah, elle rentre dans la pub, elle rentre dans le dialogue, l'écriture, le « j'ai ça à dire », mais avant, juste avant, c'est le juste avant, et on n'a pas de mémoire de ça. C'est-à-dire qu'au moment où on apprend, un enfant de 6 ans, quand on lui parle de sa mémoire, il se rappelle quasiment de sa naissance. C'est très étrange. Moi, j'ai eu 4 enfants, donc j'ai pu vérifier un peu. Hein, mais il a une mémoire incroyable. Il revient très loin en arrière. Et que quand on a 20 ans, notre mémoire s'arrête à 6 ans. On a oublié ce truc-là. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais il s'est passé quelque chose. Et je crois que les artistes peintres... parle de ce temps-là, en fait.
Et donc, c'est cette assaise de l'action dont je parle dans le texte.
On a fait le tour, là, si tu veux. Il y a cette recherche d'innocence. Dans les écoles maternelles, ils font un linge imprimé avec les dessins des enfants. C'est un personnage, et ça ressemble à des patates, en fait. Hein, c'est une série de patates. Et tous les dessins sont intéressants. Et c'est le message du buffet, et à un moment donné, il y aura formatage. Mmh. Ils auront tous le papier de la même taille, les mêmes crayons de couleur, etc. Et c'est fini. Mmh. À partir du moment où il y a ce formatage, la créativité, c'est fini. L'innocence est perdue. C'est la même chose pour l'écriture et la lecture. Mais là, on pourrait avoir des domaines réservés. On pourrait danser. Enfin, il y a des gens, même dans les peuples européens, il y a des gens qui chantent plus, il y a des gens qui dansent plus, il y a des gens qui dessinent plus, il y a des gens qui font plus de théâtre. Il y a plus de musique en Allemagne dans les pays protestants que dans les pays catholiques. C'est une pratique beaucoup plus courante. Et donc, il y aurait dans ta quête, effectivement, une recherche d'innocence. Et bon, ça me fait... sourire, parce qu'il y a cette espèce d'aspect sexué très fortement, cette représentation des appariements frénétiques, et ça serait un masque, oui, pour parler comme Agnès, pour cacher cette impudique recherche d'innocence.
Qui est justement, enfin, qu'on trouve dans ce temps très court, qu'il y a, je pense que, là je parlais de cette phrase de Boulez qui est belle, hein, l'assaise de l'action. C'est une assaise que Vincent... se donne en se disant pendant ces 20 minutes-là, c'est l'hyper-assaise, l'hyper-concentration dans une action rapide pour retrouver précisément cette innocence-là. Et dans cette innocence-là, il se permet les images offensantes, éventuellement cuisson mixée avec d'autres qui, comme il le dit tout à l'heure, il attrape par hasard à cause de la conjoncture, et tout ça sert de matériel pour la grande fresque. Après, il se désolidarise très vite. C'est ça aussi qui est assez amusant, c'est-à-dire que le tableau, il est immédiatement donné. Et ça, je pense que c'est une belle chose sur laquelle il faut insister, c'est-à-dire qu'on se trouve vraiment dans le travail de Corpet face à quelque chose qui a à voir avec le don et le contre-don. Il donne tout de suite. Vous donnez, vous montrez que vous aimez, il donne et il se désolidarise. De sa peinture, peut-être d'autant plus que précisément il n'y a pas eu le temps de l'attachement. Elle a été faite rapidement, one shot, terminée, non reprise, livrée, distribuée, et en même temps elle forme un grand tout dans une grande distribution. Ça, c'est peut-être important d'expliquer ce grand tout. Vincent, tu vas le redire toi-même, c'est-à-dire que même si ce grand tout il est livré, il est totalement catalogué par Vincent lui-même, qui date, qui s'est
c'est un archiviste,
qui topographie
de première bourre, mais c'est tous comme ça.
Voilà, qui garde tout de
tous
façon
les gens
assez,
qui travaillent sérieusement,
voilà, très très frénétique. C'est-à-dire qu'il y a, je le répète, la légèreté, le jeu, la rigolade, la pirouette, la tarentule qui tourne par terre, et en même temps derrière l'ordinateur, tout est daté, chiffré, serré. La cesse de l'action.
Et donc, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir cette exposition qui aura lieu à la rue Beaubourg bientôt. Je mettrai tout sur le podcast. Et je voudrais revenir en arrière aussi pour élargir mon propos. L'énergie libidinale, elle est bonne aussi. Je ne veux pas non plus faire la censure ou du puritanisme ou je ne sais pas quoi. Et j'ai remarqué que les gens qui vieillissent bien ont encore une charge libidinale importante qui est là, mais qui est assez ludique, qui est assez joyeuse. Bon, on a le cas de Picasso, bien sûr, c'est flagrant, mais aussi de Matisse. Hein. On a une des femmes de Picasso qui a écrit ses mémoires, je crois que c'est là-dedans, j'ai vu ça. Et ils vont chez Matisse, et Matisse poursuit la bonne. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais...
on n'a plus de bonne.
Mais les amours ancillaires de... comment il s'appelait, DSK, avec une dame aux États-Unis. Enfin, ça s'est mal passé, tout ça, c'est fini. Mais il y a quand même cette énergie libidinale, elle est bonne aussi. Mais je défendais simplement le statut du dessin et de la peinture, l'en-soi de la chose, essayer de bien voir ce qui est. Mais ce côté ludique, en fait, qui remet du mouvement, c'est l'intérêt de l'art, c'est de déscléroser. C'est justement pour ça le refus dont tu parlais, des prises de position qui figent, qui figent dans une espèce de graisse. C'est le contraire, quoi.
Mais pour moi, je repars sur le truc, c'est comment ils font les autres. C'est-à-dire qu'on est le seul animal mammifère à ne pas savoir qu'est-ce qu'on va faire. Au départ, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va être un tueur, un saint, un connard, un trouillard. On va être tout.
Ils jouent.
Non, les animaux, oui, mais très vite, ils ont une fonction. Ils la respectent. Alors que nous, finalement... Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en vieillissant, ça, on le voit tous, c'est que c'est quand même extraordinaire quand tout à coup, là, on est dans la rue, on regarde les gens dans la rue, il y en a quand même la plupart qui sont plus jeunes que moi. Et je les connais déjà, ceux-là. Je les ai déjà vus quand j'étais petit. Ils étaient habités par quelqu'un d'autre, mais ils ont le même... J'adore les vieilles avec les cabas. Quand j'étais petit, il y avait des vieilles avec des cabas qui étaient habillées avec des robes à carreaux et qui étaient courbées comme ça. Donc j'étais petit, j'avais 8 ans, elles en avaient 60. Et aujourd'hui, il y a toujours la même vieille avec son cabas, sauf qu'elle est plus jeune que moi. Donc elle était avec moi, petit, en train de regarder les autres vieilles. Et puis un jour, elle s'est retrouvée avec une vieille avec un cabas. Et j'adore ça. Enfin, j'adore, c'est que là, on arrive... au summum de la stupidité humaine, pour moi, de la vraie stupidité humaine, qui est que quand on voit le Premier ministre actuellement qui a 8 ans de moins que moi, je me dis, mais comment il est arrivé là? Comment il est arrivé là alors qu'il a encore 8 ans pour arriver à mon âge? Le pauvre.
Et donc voilà, dessin, exposition... Donc on vous donne un petit concert de musique contemporaine en même temps, c'était bien la référence à Boulez. Et parce qu'en plus, c'est toute l'histoire du postmoderne aussi, sur les citations, tu aurais pu te rapprocher.
Alors la musique sur la musique. Alors je vous disais tout à l'heure que j'étais sourd. La seule musique que j'écoutais quand j'écoutais de la musique, c'est les quatuors de Beethoven. Voilà, donc la musique complètement mathématique, faite par un sourd. Parce qu'il n'y a plus besoin d'écouter, il y a juste besoin de l'écrire.
Et c'est assez difficile d'accès en plus par rapport à des démonstrations comme celle de Bach, où on a un relais corporel pratiquement. Quand c'est bien.
Les quatuors, c'est quand même 4 personnes qui s'entretuent. Sur un temps, il faut tenir. Il y a un côté sportif, encore une fois, en même temps.
Il y a quand même cette culture punk qui est là aussi. J'en dis 3 mots dans le texte, parce qu'il y a ça, chez Corpin. Tu dis que tu écoutes un peu du punk, mais au-delà de la musique punk, il y a premièrement aussi une identité punk chez toi que je retrouve. Et peut-être que c'est une grille d'entrée, en tout cas biographique, que je trouve intéressante. La question et de l'anarchisme, et la question aussi... qu'est-ce que c'est que d'être punk en 2020, ou en tout cas si on regarde simplement ce corpus de dessins 2009-2013, c'est des dessins très punk. Et je pense que c'est la bonne entrée, en tout cas pour les décrypter et pour les voir, parce qu'il y a bien sûr le côté diachronique et intemporel et agénérationnel chez Corpet, mais le bon marqueur, c'est quand même le marqueur 80 de la culture punk qui partout, me semble-t-il, irrigué.
Mais pour se moquer des punks, il y a une petite chanson qui existe actuellement que j'adore, qui est où il y a une phrase qui dit « Quand on pense aux punks qui ne rêvaient pas d'un futur, mais qui ont un passé.
Oui. »
Pour se moquer d'eux, quand même.
Mais le terme est devenu générique, comme sadique, masochiste ou je ne sais pas quoi, parce qu'on parlait du Marquis de Sade. Et c'est un terme qui veut dire cynique et nihiliste, en fait. Et ce qui reste quand même assez frais, parce que tu gères pas, quoi, quand tu es cynique et nihiliste. Tu gères pas le monde. Tu n'es pas anxieux sur tes possessions, sur ton pouvoir, une charge symbolique comme ça, justement, comme un poste, comme le poste de Premier ministre, tout ça. Et ça
Mais
cette légèreté, mais le bouffon, c'est difficile, la position du bouffon, elle est, mais un côté sinistre.
Sinistre, mais pas cynique. Il y a pas, enfin, le cynisme de Corpeil, il est déjoué. Non, par le côté justement sardonique.
Sardonique, c'est bien.
C'est vraiment
ça,
sardonique.
C'est bouffon sardonique.
C'est le bouffon sardonique. Il est punk. Le cynique, il est pas punk parce que le cynique, il est toujours triste, sinistre et annonceur de mauvaises nouvelles. Vincent, c'est pas ça. Il est sardonique. Et rira bien qui rira le dernier.
Et donc, j'avais cru que... Donc, il y a différentes périodes dans l'exposition de dessin, alors...
Oui, de 80... quasiment 83.
Ça fait un peu rétrospective.
C'est une rétrospective. C'en est une.
Il va y avoir combien d'œuvres ?
Aucune idée. On va voir comment on va accrocher, mais il va y avoir entre 100 et 200.
Ah, c'est pas mal, ouais.
Justement, pour montrer à la fois... la question des évolutions, mais plutôt, puisque c'est ça qui domine chez Vincent, des fixismes catégoriels. C'est-à-dire que quelle que soit la scène, il y a des fixismes catégoriels. On retrouve une façon de faire et des modèles et des structures de modèles qui reviennent. Donc en fait, ce qui sera amusant...
À travers toutes les périodes, donc, oui, il y a des points communs.
Plus que des points communs, des obsessions. Et des fixismes.
Pour moi, le point commun, c'est ma maladresse.
Ça, c'est une phrase. C'est une phrase.
C'est un poseur. Hein.
C'est un peu. Il faut constamment déminer la pose. Hein. Ouais. Mais bon, c'est rigolo de déminer la pose.
C'est la pudeur, ça. C'est le...
Oui, c'est ça. Ça me fait rire. C'est l'hyper.
C'est la carapace caractérielle.
C'est la carapace. J'ai pas de style.
J'existe pas. Je suis un sportif. Voilà. Bon. Je fais rien.
Je ne fais rien. Je glande. Voilà. Mais non, l'exposition, elle va permettre le déminage.
Après,
et justement, de voir dans le temps long.
Après l'interview, je rentre dans mon EHPAD.
Elle est là. Moi aussi, d'ailleurs.
Les grandes et belles obsessions.
Faut qu'on profite de cette sortie. Bon, il y a un peu de soleil. Je commence à tomber malade.
Ça y est, il tousse. On ne fêtera pas Noël.
À Pâques ou à Noël. Oui, les grandes obsessions.
Oui, les grandes obsessions. Je pense que c'est les grandes obsessions.
Dans le sens d'un projet littéraire, les grandes obsessions.
Les grandes obsessions dans un sens littéraire et aussi loin de tout effet petit bourgeois. Ça, moi, j'aime beaucoup ça dans le travail de Vincent Corpeil. C'est-à-dire qu'on est loin de l'idée de vouloir livrer ce qu'on attend. Il nous étonne tout le temps. Il étonne tout le temps, malgré les fixismes. C'est là que c'est quand même très fort. Quelqu'un qui fait du fixisme, ça peut ennuyer. On n'est jamais ennuyé par le travail de Corpeil. Parce que Corpeil, il prépare son travail et au dernier moment, tu avais utilisé sans en... Oh, je dis, pourquoi il y a cette forme-là dans ce coin-là? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Je sais pas, j'ai trouvé une forme souple. Je trouvais que ça allait bien et que ça permettait de combler. Donc, on parlait de l'innocence tout à l'heure. Aussi un naturel désarmant, en même temps dans l'hyperconcentration et dans le travail d'enfant, comme l'enfant va aller chercher justement...
C'est vrai donc qu'il a trouvé ça dans la pratique?
Oui,
c'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, dans la pratique, accroché et associé au grand bassin d'images et à la grande littérature lue de façon frénétique de Gilgamesh jusqu'à ce qu'il a pu. Puis à un moment donné, on n'a pas parlé de ça quand même, mais cette fracture de 87, c'est de la pose et c'est de la littérature ou c'est de l'autofiction, j'en sais rien, ou du roman autofictionnel. À partir de 87, j'arrête de lire, j'arrête d'aller au ciné, j'arrête d'écouter de la musique, je turbine dans mon atelier, point à la ligne. En attendant, il y a tout l'anté 87 qui a nourri la cosa mentale et il y a tout ça qui ressort dans la main. Et la main qui accepte d'aller chez Basie et pour après elle trouver une forme éventuellement qu'on imagine en vitrine dans une supérette, quoi. Et tout se mélange avec un bout de sexe, avec un bout de buffle, avec un bout de ce qu'on veut, de ce qu'il a trouvé et ça remplit. Ça remplit. C'est cette question aussi de l'accumulation, enfin ça reparle de ces analogies, mais il y a voilà... L'entassement, le puzzle, l'accumulation, la jonglerie, là on retrouve aussi la question du jeu. Il jongle avec les formes.
Il y a quelque chose d'un personnage médiéval. Hein,
très. Et d'ailleurs,
c'est son physique aussi qui fait penser
à ça. Il est chevaleresque aussi. Ben, c'est Vincent Lechaud.
Oui, il y a quelque chose de...
Bref.
Si on prend les sept péchés capitaux de Bosch ou je ne sais pas quoi, il y a quelque chose.
Ah, bien sûr. Ah oui, à mort. J'ai l'impression que quelquefois c'est comme une partie de dés.
Absolument, la partie de dés,
oui. La partie de dés, à fond. Il lance les dés.
Le pipoteur, là. Ouais. Hein, les trois gobelets.
Voilà. Oui.
Ici, 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 là, là, là.
Oui.
Bonto. Joueur de Bonto.
Joueur de Bonto.
Vincent Corpet, joueur de Bonto. Ouais, ça, ça sera bien, pour le gros catalogue.
C'est pour l'acte 2.
Oui. Bon, mais je propose qu'on arrête là, avant qu'on soit bouffé par le pollen.